Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien composé des découvertes musicales, de vos sorties à Poitiers et ses environs et surtout de rencontres autour de l'actualité. Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui est en train de se mettre en place à Rouillé. Il s'agit d'un local de rétention administrative et la CIMAD est avec nous pour en parler en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, on va parler mobilité en compagnie du vice-président mobilité de Grand Poitiers, qui est aussi conseiller municipal de Poitiers délégué à la ville cyclable. Il s'agit de Francky Angebaud. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Pour parler donc de l'enquête publique sur le plan de mobilité de Grand Poitiers qui est en cours actuellement, donc tout le monde peut y participer. Est-ce que vous pourriez d'abord nous rappeler les principaux objectifs de ce plan mobilité qui en fait vise un horizon assez lointain, 2035 carrément?
Oui, tout à fait. Donc déjà le plan de mobilité, il faut savoir que c'est un exercice réglementaire, hein, c'est une obligation de la communauté urbaine d'élaborer ce plan, et ce plan il a pour objectif de dessiner la stratégie mobilité à l'échelle des 40 communes de Grand Poitiers pour les 10 ans à venir, donc entre 2025 et 2035. Donc on a élaboré le projet de plan de mobilité avec les communes de Grand Poitiers, bien évidemment, mais aussi avec les habitants. On a fait un certain nombre de réunions publiques et puis on avait une enquête aussi sur la plateforme Je Participe qui a permis de recueillir les besoins qui n'étaient pas encore sur lesquels il n'y avait pas encore de solution alternative à la voiture individuelle proposée pour les habitantes et habitants. Donc on a construit ce plan qui est décliné en 5 axes, 28 actions et dont le projet a été voté en conseil communautaire en septembre dernier. Et donc là, on est dans la dernière phase de ce plan de mobilité, qui est une phase de concertation, de consultation aussi, donc à la fois de la région, des services de l'État, du département, mais aussi des habitantes et des habitants via une enquête publique qui est à l'heure actuelle en cours.
Et donc, il y a des objectifs importants. Par exemple, augmenter la part des déplacements en transport en commun de 40%. Ça paraît ambitieux ou c'est réaliste?
Alors, c'est un objectif ambitieux, c'est clair, mais c'est un objectif qui s'impose à nous puisque ces objectifs, en fait, sont la déclinaison d'un autre plan de Grand Poitiers, qui est donc le plan climat, air, énergie territorial, qui définit en fait les objectifs que doit respecter le territoire en matière de réduction des consommations d'énergie et réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a repris ces objectifs qu'on a déclinés sur le volet mobilité. Alors, il faut rappeler que les mobilités sur le territoire, c'est plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est l'enjeu majeur en matière de climat. Et donc, on a décliné ces objectifs justement pour voir un petit peu quel curseur on devait atteindre et quels objectifs on devait atteindre à horizon 2035 pour être en phase avec les objectifs du plan climat. Et donc, c'est effectivement des objectifs ambitieux puisqu'on doit augmenter de 40% entre 2018, puisque ce sont les derniers chiffres précis, la dernière enquête ménage déplacement qu'on a à notre disposition date de 2018. Donc, augmenter de 40% entre 2018 et 2035 la part modale liée au transport en commun, mais c'est aussi le cas sur l'usage partagé de la voiture. On entend par là le covoiturage ou l'autopartage. Et puis, sur la politique cyclable, c'est un objectif encore un peu plus ambitieux, puisque l'objectif, c'est de multiplier par 3 la part modale du vélo entre 2018 et 2035.
Alors, quels sont les principaux investissements qui sont prévus pour développer justement ces modalités-là?
Alors, sur la politique cyclable, bien évidemment, le territoire va devoir continuer à faire des aménagements pour sécuriser les parcours des cyclistes et donc inciter de plus en plus d'usagers à utiliser le vélo pour les trajets qui sont courts. On voit qu'on a encore un gros potentiel parce que dans le diagnostic, on a pu voir que plus de la moitié des trajets qui font moins de 5 km sont encore réalisés au volant, tout seul au volant de sa voiture. Donc, typiquement, on voit qu'il y a encore une énorme marge de manœuvre pour pouvoir inciter à l'usage du vélo. Et puis, bien évidemment, la grosse part des investissements que devra faire la collectivité, ça sera plutôt sur la partie transport en commun, donc avec des objectifs de restructuration du réseau pour optimiser l'usage du transport en commun sur le territoire. Et puis, on va être aussi, pour pouvoir continuer à développer les offres, donc il nous faut des bus supplémentaires, mais pour pouvoir avoir des bus, il faut avoir un endroit pour les stocker. Et c'est vrai que le dépôt de Vitalis à l'heure actuelle est complètement saturé, donc il va y avoir nécessité de réfléchir à la création d'un second dépôt pour pouvoir avoir des bus supplémentaires pour permettre des services supplémentaires sur le réseau.
Et comment on incite les habitants à franchir le pas de ces déplacements quotidiens qu'on peut faire autrement qu'en voiture?
Alors, je pense que le premier levier de la collectivité, et c'est ce qu'on a pu constater depuis le début du mandat, c'est vraiment d'améliorer l'offre. d'améliorer l'offre en transport en commun, c'est-à-dire plus d'horaires, plus de souplesse, plus de lignes aussi qui permettent de répondre aux besoins et donc de donner des solutions alternatives à la voiture individuelle pour les habitants. Ça, c'est le premier levier. Même chose pour le vélo, c'est-à-dire en aménageant les axes cyclables de manière plus sécurisée. Ça permet de convaincre certains qui souhaitent le faire à l'heure actuelle et qui nous le disent, mais qui ne se sentent pas suffisamment en sécurité pour le faire à vélo. Donc, les aménagements vont bien évidemment y participer. Mais il y a aussi un énorme effort de pédagogie. Il y a aussi des éléments un peu ludiques. Je pense par exemple au Mois sans ma voiture qui est organisé par Vitalis maintenant depuis 2 ans, qui va être reconduit l'année prochaine, qui en offre en fait des titres de transport, que ce soit pour Vitalis, mais aussi pour l'autopartage ou les trottinettes Pony par exemple, pour pouvoir le tester pendant un mois. Et en fait, on se dit qu'en le testant gratuitement pendant un mois, on se rend compte finalement que ça peut répondre à une partie des besoins. L'idée, c'est pas d'inciter les gens à prendre systématiquement le transport en commun, mais déjà, s'ils le font pour certains trajets, pour certains déplacements, c'est toujours ça de gagner. Et c'est en le faisant tester, finalement, qu'on arrive à convaincre aussi les habitants de changer de manière de se déplacer.
Alors, c'est vrai que Poitiers n'est pas forcément la ville pratique pour le vélo, mais d'après les chiffres que vous avez pu récolter, je ne sais pas s'ils datent encore de 2018, mais c'est que 2% des déplacements à vélo.
Alors, c'est même, 2%, c'est même un arrondi. En réalité, ouais. Le chiffre exact, c'est 1,7% de part modale de vélo en 2018. Ça veut dire que 1,7% des déplacements réalisés sur le territoire de Grand Poitiers, seulement 1,7% était réalisé à vélo. Donc l'objectif à horizon 2035, c'est d'arriver à 5% de cette part de déplacement réalisée à vélo sur le territoire. Mais comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de petits déplacements très courts qui sont encore réalisés au volant de sa voiture, et c'est cela qu'on vise pour pouvoir les transformer en déplacements réalisés à vélo.
Et alors, c'est un plan Grand Poitiers, hein, vous l'avez dit. Donc, comment on améliore aussi ces liaisons entre Poitiers, la ville, et les communes qui sont autour ?
Alors, c'est un vrai sujet, et c'est aussi pour ça en fait qu'on a des objectifs qui sont partagés, qu'on ne met pas tout sur les transports en commun, parce qu'on sait très bien que des petites communes rurales plutôt éloignées, avec peu de densité, ça ne sera pas propice à pouvoir proposer des solutions type transport en commun, parce que en fait, pour pouvoir mettre en place du transport en commun, il faut un certain nombre d'habitants concernés et puis une certaine densité pour pouvoir justifier la mise en place d'un bus. Parce que faire rouler un bus avec très peu de personnes dedans, c'est économiquement pas viable, mais environnementalement, c'est pas très intéressant non plus. Donc c'est pour ça aussi qu'on mise sur d'autres solutions comme le covoiturage, mais aussi l'usage du vélo, parce qu'en secteur rural, il y a aussi des besoins de liaisons cyclables. Et donc c'est en misant sur l'ensemble de ces solutions possibles qu'on permet à chaque habitante et à chaque habitant à horizon 2035 d'avoir une solution qui soit alternative à la voiture individuelle.
Est-ce qu'il y a aussi une offre TER qui peut être renforcée ?
Alors effectivement, sur les objectifs de transport en commun, on parle tout de suite évidemment du réseau Vitalis, parce que c'est le réseau sur lequel nous, on a la main en tant que collectivité. Mais il y a effectivement d'énormes enjeux aussi pour les trajets qui sortent du territoire de Grand Poitiers, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent en dehors de Grand Poitiers, qui viennent sur Grand Poitiers quotidiennement, ou inversement, des personnes qui habitent à Grand Poitiers et qui sortent du territoire de Grand Poitiers quotidiennement. Donc il s'agit aussi de pouvoir développer l'offre de transport en commun. Donc on pense évidemment au TER, puisque le TER est un vrai moyen de se déplacer au quotidien de manière plus durable, mais aussi aux cars express qui sont organisés par la région. Donc là, évidemment, on a de gros enjeux en matière d'augmentation de ces pratiques avec le transport en commun organisé par la région. Donc là, c'est un travail qu'on doit mener étroitement, à la fois avec les territoires périphériques, donc c'est déjà ce qu'on fait dans le cadre du SCOT avec le Haut-Poitou, les Vallées du Clain et Grand Châtellerault, mais bien évidemment aussi étroitement avec la région pour pouvoir faire en sorte d'avoir plus d'offres aussi sur ces dispositifs-là.
Alors, en termes d'investissement, il y a aussi un nouveau parking relais qui est envisagé au Futuroscope.
Oui, on a en fait, ce qui est indiqué dans le plan de mobilité, c'est de revoir la stratégie des parkings relais, c'est-à-dire en gros comment se stationner à la périphérie urbaine, entre guillemets, et de finir son trajet en transport en commun. Donc, il y a une vraie stratégie là-dessus. Et notamment, concrètement, on réfléchit à l'heure actuelle avec le département pour la mise en place d'un nouveau parking relais sur la zone du Futuroscope, qui permettra justement pour les personnes qui viennent plutôt soit du nord de Grand Poitiers ou même du Haut-Poitou, par exemple, de venir jusqu'à la zone du Futuroscope et finir le trajet en transport en commun.
Alors, il y a déjà eu plusieurs réunions publiques pour présenter ce plan. Quels sont les premiers retours ?
Alors, c'était plus des questionnements sur le pourquoi du comment, pourquoi ces objectifs et ainsi de suite. Donc, c'était plus pour sensibiliser finalement en fait les habitants qui avaient des questions à la manière dont on avait conduit ce plan de mobilité et comment on avait abouti à ce plan d'action. Et bien évidemment, sur les remarques, qu'elles soient positives ou même sur les choses sur lesquelles les habitants souhaiteraient qu'on aille peut-être encore plus loin. C'est l'objet de l'enquête publique qui est en cours à l'heure actuelle. Donc les habitantes et les habitants ont la possibilité de mettre toutes leurs remarques sur le site Je participe de Grand Poitiers, donc où ils vont pouvoir retrouver l'ensemble des documents qui ont été établis et où ils peuvent participer et répondre et commenter en tout cas ce plan de mobilité.
Et puis il y a aussi des moments où le commissaire de l'enquête est là pour répondre aux questions. Et là, c'est jusqu'à fin janvier. Hein.
Tout à fait. Alors il y a effectivement des permanences par la commission d'enquête. Donc les commissaires enquêteurs sont présents aussi pour pouvoir recueillir les éléments des habitantes et des habitants. Et sachant que cette enquête publique qui au départ devait se terminer le 23 janvier a été prolongée jusqu'au 6 février. Donc il y a un petit peu plus de temps pour pouvoir y contribuer.
Donc là, il y a par exemple, jeudi 23 janvier, c'est à Poitiers, donc à l'hôtel communautaire. Et puis aujourd'hui, à Genet-Marigny, de 15h à 18h, vous pouvez donc rencontrer la commission d'enquête pour pouvoir effectivement, si vous ne savez pas comment mettre en forme vos remarques, il peut vous aider. Pour vous, d'ici 2035, ça va être quoi les principaux défis, les principales problématiques qu'il va falloir relever pour atteindre ces objectifs ?
Alors déjà, en fait, pour pouvoir refixer un petit peu le point zéro, comme je vous l'ai dit, la dernière enquête ménage-déplacement qu'on a réalisée était en 2018. On ne le fait pas tous les ans parce que c'est des enquêtes très lourdes et très coûteuses. On envisage d'en refaire une en 2025 pour avoir le point zéro, en fait, de ce plan de mobilité, ce qui permettra de voir déjà tout ce qui a été réalisé, en fait, les résultats des objectifs qui ont été réalisés depuis 2018 et notamment toutes les actions qu'on a pu mener depuis le début de ce mandat. Donc, ça permettra de revoir un petit peu ces éléments-là. Et puis derrière, vraiment, le gros travail, c'est de chiffrer le coût d'un nouveau dépôt et de la restructuration du réseau. Et ça, c'est une étude qui va être lancée dans les prochaines semaines, justement, pour y voir plus clair sur combien mettre, et puis derrière, ça laissera la possibilité aux élus qui seront présents pour le prochain mandat, c'est-à-dire que les études seront disponibles pour pouvoir choisir finalement quels investissements exacts seront faits en fonction aussi des résultats de l'enquête ménage-déplacement.
Merci beaucoup Francky Angevaud, donc vice-président mobilité de Grand Poitiers, d'être venu nous présenter donc cette enquête publique sur le plan mobilité de Grand Poitiers. Et c'est à vous, auditeurs, auditrices, d'y participer donc sur le site Je participe ou pendant les permanences de la commission d'enquête. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On continue en musique avec La Yegros, avec Eblis Alvarez, et c'est le titre Dande, extrait de l'album Haz.
Siempre tan calladito que no me dejas pasar y ahí me quedo a tu costadito sin casi poderte hablar cuando venga el frío polar sin abrigo y sin celular yo me vuelvo a preguntar ¿dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? En el desierto de mi soledad, cuando no tengo
J'en ai ras-le-bol.
Vous avez entendu ce qu'a dit la radio ?
Un peu de musique.
Bien sûr.
Pulsar.
Ce sont les meilleurs dans leur spécialité.
Vous n'en avez peut-être pas encore entendu parler, il y a un projet de local de rétention administrative à Rouillé et Stéphane Martin, bénévole à la CIMAD du groupe local de Poitiers, est avec nous pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là pour nous expliquer déjà peut-être ce que c'est un local de rétention administrative, à quoi ça sert.
Alors, il faut parler plus généralement de la rétention administrative. Donc la rétention administrative est une mesure administrative qui concerne les étrangers en situation irrégulière en France. Les étrangers qui sont en situation irrégulière principalement et qui donc sont frappés par des mesures prises par la préfecture peuvent être enfermés soit dans des centres de rétention administrative, soit dans des locaux de rétention administrative. Jusqu'à présent, on a surtout des centres de rétention administrative, il n'y en a pas dans le Poitou-Charentes. Donc ce sont des centres qui peuvent comprendre plusieurs dizaines de personnes et où les personnes peuvent être enfermées jusqu'à 90 jours. Et les locaux de rétention administrative, en gros, c'est de l'enfermement de proximité. Ce sont des locaux où les personnes peuvent être enfermées jusqu'à 4 jours avant d'être soit expulsées, soit placées dans un centre de rétention administrative.
Alors, pourquoi la CIMAD se pose-t-elle à l'ouverture de ce local de rétention administrative à Rouillé ?
Alors, ce local de rétention, c'est un des signes du durcissement du droit des étrangers qu'il y a ces dernières décennies, et notamment depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, puisqu'on a déjà eu deux lois asile et immigration, une sous chaque quinquennat. Et donc, en 2021-2022, Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, a exprimé sa volonté justement d'augmenter les places de rétention, jusqu'à 3000 en centre de rétention administrative et 300 en local de rétention administrative, avec la construction de nouveaux CRA, de nouveaux centres et l'ouverture de nouveaux LRA. La CIMAD s'oppose à cette politique de durcissement et de répression envers les personnes étrangères qui les précarisent, qui les maintiennent dans la précarité et qui fabriquent des personnes clandestines de manière de plus en plus systématique.
Et qu'on ne voit pas forcément. Quelles sont justement vos inquiétudes par rapport aux conditions de rétention, le traitement des personnes dans ce type de structure ?
Alors là, pour l'instant, il n'y a aucune association qui intervient dans les locaux de rétention administrative, uniquement dans les centres de rétention administrative où la CIMAD intervient avec 4 autres associations et les conditions de rétention sont généralement extrêmement mauvaises. Donc ce n'est pas une peine judiciaire, hein, ce ne sont pas des condamnés, c'est une mesure administrative, mais les centres et les locaux de rétention sont des lieux de type carcéral. Et souvent, les gens qui sont enfermés dans les centres de rétention nous disent que c'est pire que la prison, parce qu'il n'y a aucune perspective, il n'y a aucune activité, et ils sont là sans savoir quand est-ce qu'ils vont en sortir, et comment ils vont en sortir aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont être expulsés ou pas ? Et ça crée un désespoir qui est vraiment extrêmement fort. Et donc régulièrement, il y a des problèmes dans les centres de rétention. Quoi.
Et si vous alertez, là, parce qu'il y a une réunion qui est prévue ce samedi, on va en parler, mais c'est aussi parce que ça s'inscrit dans le contexte que vous évoquiez de politique migratoire actuelle en France et dans la volonté d'en créer plusieurs sur le territoire Poitou-Charentes.
Alors, il y a déjà eu un local de rétention administrative au commissariat de Poitiers jusque dans les années 2010 apparemment, et donc il n'y avait plus de local de rétention, de lieu de rétention en Poitou-Charentes depuis cette époque. Et les étrangers étaient envoyés directement à Bordeaux ou à Rennes dans les centres de rétention administrative. C'est pour ça que c'est vraiment, c'est vraiment comme ça que ça a été présenté, et notamment aussi, j'ai relu une interview de Nicolas Turquois qui le justifiait ainsi, c'est vraiment de l'enfermement de proximité, c'est pour pouvoir les placer en local de rétention en vue de les expulser ensuite. Nous, notre position, c'est ni ici ni ailleurs. La préfecture n'a pas communiqué. On ne sait pas s'il y a volonté d'ouvrir d'autres centres en Poitou-Charentes ou pas. Mais nous sommes pour la fermeture de tous les lieux de rétention, que ce soit les centres ou les locaux.
Et est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques à ouvrir ce type de local de rétention en milieu rural ? Donc là, c'est vraiment la frontière Vienne-de-Sèvres.
Oui, mais c'est précisément parce que c'est la frontière Vienne-de-Sèvres. Ça permettra de couvrir les deux départements. Et donc, c'est un ancien local de gendarmerie qui est situé exactement à côté de l'autoroute, qui est actuellement une aire de maintenance de l'autoroute pour l'autoroute du sud de la France. Et donc, ça permettra bien évidemment de faciliter les arrivées et les départs des personnes.
mais les élus locaux n'étaient pas forcément au courant. En tout cas, ils ne sont pas impliqués dans la création de ce local.
Non, le maire de Rouillé, vous souhaitez la réouverture de la gendarmerie. Et donc, la préfecture l'a informé que ce ne serait pas une réouverture de gendarmerie, mais une ouverture de local de rétention administrative.
Est-ce que vous avez pu avoir des échanges justement avec le maire, avec la préfecture? Quels ont été les retours?
Nous n'avons pas eu d'échange avec la préfecture, nous avons tout appris par voie de presse. Et personnellement, à ma connaissance, nous n'avons pas eu d'échange localement. Je pense qu'il y a eu des échanges avec la mairie, mais pas avec la CIMADE. Et c'est aussi un des objets de cette réunion, c'est de pouvoir mieux informer d'abord les Rouillécois et les Rouillécoises, donc les habitants de Rouillé et des communes alentour. Et plus généralement, tous les habitants de la Vienne et des Deux-Sèvres, puisque ça ne concerne pas que Rouillé. C'est vraiment un problème Poitou-Charentes. Et d'ailleurs, il est possible qu'une autre réunion soit organisée à Poitiers plus tard par le collectif DNSI. D'ailleurs, nous sommes d'ici.
Donc, la réunion, c'est ce samedi 18 janvier à 16h dans la salle du Temple protestant de Rouillé. Quels sont les principaux messages que vous souhaitez faire passer lors de cette réunion publique?
La communication du ministère et de la préfecture sur les lieux de rétention, quels qu'ils soient, c'est que c'est pour enfermer des étrangers délinquants qui présentent une menace à l'ordre public. Alors il faut dire tout de suite que c'est une rhétorique xénophobe qui établit une équivalence entre étrangers et délinquants et que c'est faux, puisque donc, comme je l'ai dit, c'est une mesure administrative qui est relative à la situation administrative de ces personnes.
Généralement, elles sont en situation irrégulière.
Oui, c'est parce qu'elles ont été contrôlées, quel qu'il soit, elles n'ont pas de papier, elles ont été contrôlées. Et comme la préfecture met systématiquement des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour, etc., quasiment tout le monde est concerné. Et généralement, on met menace à l'ordre public. Parce que comme ça permet de faire sauter les dernières barrières administratives et on fait ce qu'on veut avec ces personnes.
Et au-delà de cette réunion, quelles sont les actions que la CIMADE envisage de mener face à ce projet ou si jamais il est mis en œuvre pour surveiller son fonctionnement?
Alors le fait que ce soit en zone rurale, bien sûr, ça complique beaucoup les choses. Donc c'est complètement isolé et juste à côté de l'autoroute. Le principal enjeu, c'est de savoir comment il sera utilisé et comment il sera, quelle sera l'occupation, l'utilisation de ce local de rétention. Nous ne sommes pas en mesure actuellement, personne, je pense qu'aucune association n'est en mesure de faire une surveillance précise de l'activité. Et je pense que c'est en partie voulu, le fait que ce soit aussi isolé, ça permet de faire les choses de manière très, très discrète. Et de manière générale, il y a un grand manque de communication de la part des autorités publiques sur tous les lieux de rétention. Ils n'aiment pas du tout qu'on en parle. Parce que généralement, on souligne, et pas uniquement nous, aussi la contrôleuse générale des lieux de privation des libertés ou d'autres personnes, on souligne les conditions absolument déplorables de rétention.
Et quelles sont, vous, justement, les alternatives que vous proposez à ces rétentions administratives de ces personnes étrangères en situation irrégulière?
Alors, la CIMADE défend la liberté de circulation et d'installation des personnes étrangères sur le territoire français. C'est-à-dire que nous estimons que les gens ont le droit, et c'est normalement reconnu par les textes du droit international. Les gens ont notamment la Déclaration des droits humains de 1948, les gens ont normalement le droit de circuler et de s'installer où ils le souhaitent. Et c'est un principe qui, normalement, devrait être respecté, mais qui est bafoué par tous les textes nationaux, pas uniquement en France, mais très largement en France.
Merci beaucoup Stéphane Martin, donc bénévole à la CIMADE, le groupe local de Poitiers, d'être venu nous parler de ce projet de local de rétention à Rouillé. Juste, quels sont les délais a priori d'ouverture?
On ne sait pas. Pour l'ouverture, il faut qu'il y ait un arrêté préfectoral qui soit pris. Et à notre connaissance, il n'a pas encore été pris à ce jour. Et les travaux sont en cours normalement, encore maintenant, là, sur le local.
En tout cas, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous ce samedi à 16h dans la salle du Temple protestant de Rouillé et peut-être lors d'autres réunions qui pourront avoir lieu à Poitiers plus tard.
Oui, une date à déterminer. Merci.
On s'en fera le relais. Merci beaucoup. Lundi, dans Séquence Midi, on parlera d'une plateforme numérique permettant aux associations d'aide alimentaire de collecter les surplus et invendus encore consommables des donateurs situés aux alentours. Ça s'appelle Proxidon et c'est mis en place par la Banque alimentaire. Mais tout de suite, c'est l'heure de vos idées sorties. Et l'agenda est présenté par Rachel.
Bonjour à toutes et à tous. Sortez votre stylo puisque je vous ai fait une petite sélection de quelques événements qui se déroulent aujourd'hui à Poitiers. Tout d'abord, nous avons une conférence sur le sujet de la justice climatique, droit des générations présentes et futures. Elle est présentée par Agnès Michelot, professeure des universités en droit public et spécialiste du droit international de l'environnement. Elle est gratuite et aura lieu à 14h à l'espace Mendès France en partenariat avec l'Université de Poitiers. Pour y participer, pensez à vous inscrire sur leur site internet. Ensuite, dans le cadre des Jeudis du Bar, le concert de Noska. Jeune artiste de la scène poitevine nous présente des chansons de son propre répertoire. Le concert est gratuit et se déroule à 19h au local, à l'espace bar. Nous restons au local où se tient depuis fin novembre l'exposition Cellulose de Natacha David, une artiste plasticienne poitevine qui est passionnée par l'art du papier et de son usage dans des œuvres mi-numériques et mi-plastiques. Côté cinéma, aura lieu l'avant-première de Jane Austen a gâché ma vie, suivie d'une rencontre avec la réalisatrice Laura Piani. Le film nous raconte l'histoire d'Agathe, une jeune femme célibataire qui rêve d'être écrivain. Nous verrons ses doutes, sa sexualité inexistante et son désir de tomber amoureuse. La séance a lieu à 20h30 au Tap Castille. Et enfin, ce soir se déroulera à la locomotive le Loco Comedy Club Stand-Up. L'événement se tient toutes les deux semaines. La soirée met en avant 6 humoristes qui vous promettent rire et détente. Il faut réserver sur le site de la locomotive et ça commence à 20h.
Merci beaucoup Rachel et bravo pour cette première sur Séquence Midi. Rachel, que vous retrouverez maintenant tous les matins dans Espace Matin entre 8h et 9h. Sur Pulsar à 17h, c'est le Zoom, votre émission d'actualité réalisée par des étudiantes et étudiants en parcours sciences politiques. À 18h, c'est le Labo des Savoirs. À 19h, c'est Change Doers avec des longs entretiens avec des acteurs et actrices du changement. Et à 20h, c'est Metal Fury. Merci Yann pour la réalisation technique. On se quitte avec Shoot Again, ce titre de Kétier. Elle y parle de la revanche des camgirls, ces travailleuses du sexe par internet. Bon après-midi. A creature from abroad, lying on a blanket. Even if you pay for the game, you don't have to play with the shame. Break the rules, get the cam. Enjoy the silence of the lambs. Turn to left, turn to right. Get up, get down. Turn to the left, turn to the right. Get up, get down. Sam player, why don't you shoot again? Sam player.
Why don't you shoot again?